pays disparu. Les États que l'histoire a rayés de la carte. Tiré du livre de Björn Berge, Atlas des pays qui n'existent plus, aux éditions Autrement. Le Nouveau-Brunswick, de 1784 à 1867. Population, 193 800 habitants. Superficie, 72 908 km². Des pionniers menés en bateau. Le départ du SS Hungarian le 8 février 1860 de Liverpool vers Québec est par conséquent précoce. La vue est mauvaise et le temps est à l'orage lorsque, dans la nuit du 19 au 20 février, il atteint les côtes de la Nouvelle-Écosse. Or, comme d'autres navires imprudents avant lui, il fonce droit sur l'un de ces bancs de sable sournois qui jonchent le littoral. L'avarie emporte le vapeur par le fond. Les intempéries empêchent tout sauvetage. Les 205 passagers trouvent la mort au large de l'île du Cap de Sable. L'épave est visible à marée basse, ainsi que le mât renversé auquel se sont agrippés des hommes en vain. Pour les pionniers, ayant réussi la traversée sur une mer plus clémente, la nouvelle terre sur laquelle ils arrivent n'offre à première vue qu'une maigre consolation. Vision d'un fjord empaqueté dans un épais brouillard de mer, une amplitude de marée pouvant aller jusqu'à 16 mètres, des côtes arides et inhospitalières. Moses Henry Perlet, avocat naturaliste et écrivain d'origine du Nouveau-Brunswick, décrit en 1854 dans un ouvrage consacré à la région le désespoir que peut éprouver un étranger à son arrivée sur les lieux. Les rochers dénudés, le bord de mer en pente douce, constitués de granit ou d'autres roches, les invariables forêts de pins à perte de vue éveillent dans un esprit l'idée que désolation accablante, pauvreté et stérilité habitent foncièrement ces côtes inébranlables. Perlet, en bon employé des services d'émigration de la couronne britannique et par conséquent en subtil propagandiste, expurge néanmoins ses propos de toute épouvante dès le paragraphe suivant. Car selon lui, il suffit de quitter le rivage et les conditions océaniques pour assister à une véritable métamorphose et de citer à la rescousse le rapport soumis en 1845 au Parlement britannique par le major Robinson. En ce qui concerne le climat, le sol et les capacités qu'offre le Nouveau-Brunswick, les superlatifs manquent. Il n'est pas de pays au monde aussi magnifiquement boisé et baigné par les eaux. Sur ce même mode, Perlet égrène au fil des pages les qualités inégalables de la colonie, tant pour son potentiel agricole que forestier, fluvial, piscicole ou minéral. Les éventuels inconvénients de la vie sur place ne pouvant être entièrement gommés, il mentionne que les tempêtes de neige balaient certes les terres, mais il n'y en a pas plus de 4 par an, qui ne durent guère plus de 2 jours. Ouf ! Et double soulagement, si l'on apprécie toujours les euphémismes, avec les basses températures, la neige est par conséquent 2 fois plus légère ou plus sèche qu'en Angleterre. Quant aux bêtes féroces, telles que les ours ou les loups, ils n'ennuient que rarement les paysans. Les populations autochtones amérindiennes, les Micmacs, ont-elles aussi droit à un chapitre, le tout dernier, courant sur une page et demie seulement. Dénombrés à 1116 lors du dernier recensement de 1851, leur population fond, et pour cause. Elle a été décimée pendant les guerres contre les Français au cours du XVIIIe siècle. Et si Perlet affirme qu'ils vivent en de très bons termes avec leurs voisins blancs, la réalité est tout autre. Domptés par eux, les Micmacs entretiennent amertume et désillusion et tâchent de garder leur distance, même si la proximité est inévitable. De surcroît, leur territoire de chasse diminue chaque année davantage. L'alcool, l'eau de feu, est si facilement accessible qu'il devient monnaie courante et les maladies apportées par les Européens les frappent de plein fouet. Les Micmacs sont à l'origine un peuple nomade. Ils passent leurs étés au bord du rivage, où ils pêchent des poissons, ramassent des œufs, capturent des oies, et leurs hivers dans les terres, où ils chassent le caribou. La viande est séchée et les peaux sont utilisées pour confectionner des vêtements, des outils, mais aussi des toiles pour calfeutrer leur habitation en hiver, leur wigwam. Le wigwam est une construction conique bâtie à partir de perches, des troncs de pin de la grosseur du bras, couverte d'écorces de bouleau et cousue à l'aide de fines racines. En plus des peaux de caribou pour supporter la rigueur hivernale, la structure ainsi formée est isolée par un revêtement intérieur de surface herbue reliées les unes aux autres. Les navires qui transportent les pionniers accostent au port de Saint-Jean, à l'origine simple village de maisons en bois construite à la va-vite, mais qui devient vite la plus grosse ville des environs. Une loi canadienne de 1848 précise que les voyageurs sont tenus de demeurer à bord pendant 48 heures après leur arrivée, afin d'éviter l'introduction de maladies contagieuses sur le territoire. Quiconque en montrerait les symptômes serait maintenu en quarantaine. Pour tous les passagers aliénés, idiots, sourds et imbéciles, aveugles ou infirmes, qui ne seraient pas accompagnés de parents capables de les supporter, le capitaine du bâtiment devra verser une amende de 75 livres par personne en compensation de la charge publique permanente qui risque d'incomber aux autorités. Les autres sont rapidement conduits sur le continent afin de trouver un hébergement. Les premiers soirs, on danse le steppe dans l'établissement situé près de l'église. Certains trouvent d'emblée du travail dans les chantiers navals de Saint-Jean ou de Miramichi. D'autres attendent le prochain train pour rejoindre l'intérieur des terres, sautant souvent à bord du premier venu qui les emmène dans les comtés de Kent, de Northumberland ou de Gloucester. Des ventes de terres sont organisées partout dans la colonie, une fois par mois aux enchères, le prix étant fixé aux environs de 3 shillings l'acre, payable soit en effectuant des travaux à la tâche, soit en devenant cantonnier. Il est probable qu'au cours de son expédition au Vinland, autour de l'an 1000, le viking norvégien Leif Erikson ait foulé le territoire nord-américain. Mais c'est officiellement Jacques Cartier qui, au nom de la France, en 1534, a découvert le premier ce territoire qu'il nommera Canada. Pendant que les Français s'épuisent à chasser les populations autochtones amérindiennes, loin des côtes de l'Acadie, les Anglais occupent l'archipel limitrophe où ils établissent une colonie baptisée Nouvelle-Écosse, qui, au fil des années, grignote peu à peu le continent. Il faut cependant attendre 1784 pour que le Royaume-Uni transforme le territoire en province séparée et crée le Nouveau-Brunswick, en l'honneur du roi britannique George Ier, né à Brunswick, en Allemagne. Le tracé de la frontière sud avec l'État américain du Maine s'effectue en 1838-1839, après la guerre d'Aroostook, qui, en dépit de son nom belliqueux, n'est rien de plus qu'un conflit juridique frontalier entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Le Nouveau-Brunswick est incorporé en 1867 dans la nouvelle entité nationale appelée « Dominion du Canada ». Cette union provoque une vague de protestation au sein de la population locale qui, à juste titre, comme le montrera l'histoire, craint une trop grande dévolution des pouvoirs locaux vers l'autorité centrale canadienne. La situation change cependant au tournant du XXe siècle, lorsque l'économie forestière décolle à la faveur d'une industrie du papier toujours plus avide de matières premières. Dans le Canada d'aujourd'hui, le Nouveau-Brunswick est la seule province bilingue de droit. L'enseignement s'y déroule tant en français qu'en anglais. L'exploitation forestière constitue toujours la première ressource économique de la région, tandis que le secteur de l'agriculture et de la pêche n'est plus aussi florissant qu'autrefois. Get me there. Quant au Micmac, le dernier recensement de 2016 en compte un peu plus de 18 000 sur le territoire du Nouveau-Brunswick et presque 168 000 sur l'ensemble du territoire canadien. C'était Pays disparu, extrait du livre de Björn Berge, Atlas des pays qui n'existent plus, aux éditions Autrement.